RFI, grand reportage.
Nathalie Amar.
Il est l'unique représentant de l'Afrique à la table des chefs d'État du G20, réuni depuis hier soir à Pittsburgh. Jacob Zuma participe au débat sur la relance de l'économie et la régulation de la finance. Il faut dire que son pays est en quelque sorte la locomotive économique du continent. Il y a un an, quand a éclaté la crise, l'Afrique du Sud a été relativement épargnée. Mais aujourd'hui, pourtant, son économie est affectée par le grand coup de frein aux échanges mondiaux. L'Afrique du Sud, pour la première fois depuis 1992, est entrée en récession. Grand reportage. Nicolas Champeau.
On gagne 40 euros par semaine, on a des enfants, on doit payer leurs frais de scolarité, mais on ne peut pas payer à cause de l'économie qui ne va pas bien, il n'y a pas d'argent, nous travaillons comme des esclaves. Mais nous, alors comment on fait pour survivre? C'est pour ça que tout le monde fait grève, on travaille comme des esclaves, on est traités comme des chiens. Oui, il y a la crise mondiale, je suis au courant, l'économie ne va pas bien, mais ce n'est pas de notre faute.
Precious a bien du mal à contenir sa colère. Cette mère de deux enfants habite Soweto. Après les médecins, les soldats, les postiers, Precious et ses collègues ont à leur tour investi les rues de Johannesburg pour réclamer des augmentations de salaire. Elle travaille dans une usine de textile, un secteur qui a subi de plein fouet la crise mondiale, parmi tant d'autres.
Mais disons que le côté majeur ici en Afrique du Sud, c'est bien sûr le fait que nos exportations ont chuté. Et en ce sens qu'il y a moins de demandes. Bien sûr, on a eu beaucoup de licenciements dans le secteur industriel, dans le secteur minier, enfin dans tous les secteurs en fait.
Alain-Jacques Renard s'est installé en Afrique du Sud il y a près de 30 ans. Ce dirigeant d'entreprise est membre de la Chambre de commerce de Johannesburg.
Vous savez que beaucoup de voitures avec la conduite à droite sont faites ici en Afrique du Sud et sont exportées dans le monde entier. La Hummer, le truc américain par exemple. Mais il n'y a pas que ça. Il y a les Mercedes, il y a des BMW. La BMW 3 est fabriquée avec la conduite à droite ici en Afrique du Sud.
Pour le marché anglais, japonais?
Tout à fait. Et donc, si vous voulez, bon, la demande chutante, bien sûr, on en a souffert. Tout ce qui est société de service a aussi beaucoup souffert, sans aucun doute. Mais au niveau, bien sûr, tout ce qui était exportation, ça a été un peu un désastre. Et ça l'est toujours et on n'en voit pas la fin, c'est ça le problème.
Le secteur des mines avait beaucoup souffert des coupures de courant à répétition au cours du premier trimestre 2008. Les coûts d'exploitation des mines d'or aussi ne cessent d'augmenter, car il faut désormais creuser jusqu'à 4000 mètres de profondeur pour extraire le métal précieux. C'est dans ce contexte que la crise s'est invitée. Alors que partout dans le monde on se serre la ceinture, le diamant forcément a chuté et le platine a été affecté par le recul du marché de l'automobile. Résultat, les licenciements dans le secteur miniers se comptent en dizaines de milliers. Contactés, les grosses entreprises minières et la Chambre des mines n'ont pas souhaité s'exprimer sur le dossier. Les syndicats, en revanche, ne se sont pas fait prier. Lors du 10e congrès de la COSATU, le président de la puissante confédération syndicale Sidoumo Dlamini a enjoint les patrons de renoncer à leurs bonus. La solution à la crise ne peut venir des coupables qui ne pensent qu'à maximiser leurs profits, a déclaré Dlamini. Pour lui, le libre marché a trahi l'humanité. Le gouvernement sud-africain a approché les employeurs pour identifier avec eux des alternatives au licenciement, mais il a échoué, explique Shane Shushani, porte-parole du syndicat des mineurs NUM.
L'équipe a bien été constituée. L'équipe était composée de représentants du gouvernement, de représentants de la Chambre des mines et des grosses entreprises du secteur minier. Le but était de trouver des moyens pour atténuer l'impact de la crise, mais ça n'a servi à rien. Ils continuent de licencier alors qu'ils avaient promis de trouver de nouvelles responsabilités pour les ouvriers des secteurs en difficulté. Et puis, certains de ces licenciements ne sont pas justifiés parce qu'on ne peut pas dire que tous les groupes miniers aient été affectés par la crise. Et de toute façon, quand les entreprises dégagent d'importants bénéfices, elles ne récompensent pas les ouvriers. Donc maintenant, pourquoi est-ce que les ouvriers devraient subir les conséquences de la crise à la place de leur patron ? Il faut que les entreprises conservent leur masse salariale. Le pays est en crise, la situation commence à être tendue. Les ouvriers ont été négligés depuis trop longtemps maintenant, et les gens luttent vraiment. On commence à atteindre des niveaux de pauvreté records ici. Ça devient pire que sous le régime de l'apartheid. Dans les bidonvilles et à la campagne, les gens vont se coucher le soir sans avoir rien mangé de la journée.
Le secteur de l'économie informelle n'a pas été épargné par la crise. Vincent et son ami vendent des collants, des pierres ponces et des porte-cartes près d'un feu rouge au carrefour d'un quartier cossu de Johannesburg.
Les gens ici ne nous achètent plus rien. Ils nous disent « on est en récession ». Tous les jours, ils nous disent « désolé les gars, mais la vie n'est pas facile en ce moment, donc on ne peut pas vous aider ». Résultat, on vend moins qu'avant. Là, je vends pour 20 euros de produits par jour. Il y a 3 ans, c'était 50 euros. Ça fait qu'en ce moment, je gagne 80 euros par semaine. Ce n'est pas assez parce qu'en plus, je dois faire des démarches pour trouver un emploi. Et là aussi, ce n'est pas facile. Si tu ne connais personne qui travaille déjà pour une entreprise ou une administration, tu n'as aucune chance. Et en ce moment, c'est encore plus dur avec la crise.
Karel Van Aert est chercheur à l'université UNISA de Pretoria. Dans un rapport sur les conséquences de la crise, il explique que les membres de la classe moyenne noire sont vulnérables car leur accès au marché du travail est trop récent pour qu'ils aient pu économiser et se constituer un filet de sécurité. Mais son rapport met surtout en garde le gouvernement contre les effets désastreux de la crise chez ceux qui sont tout en bas de l'échelle sociale.
In the informal sector, what's often being sold, for example, are things such as shirts.
Les gens dans le secteur informel vendent un peu de tout, des chemises, des ballons, des boissons et des sucreries au bord de la route, comme ça. Il y a aussi une petite activité artisanale au sein de cette économie informelle et les gens qui en font partie souffrent beaucoup. Avant, ils gagnaient un peu moins de 400 euros par mois, aujourd'hui ils en gagnent la moitié. Et dans le même temps, les prix ont augmenté, les produits alimentaires de base ont augmenté, donc leurs revenus ont baissé. Leur situation est exacerbée par le fait que le taux de prévalence du sida est très élevé dans ce groupe, et la maladie fait appel à des dépenses supplémentaires. Les médicaments, les frais d'hospitalisation, mais aussi les frais pour les funérailles. Ce groupe représente 47% de la population sud-africaine, ou si vous préférez, 23 millions de personnes sur une population totale de 48 millions. Donc c'est un groupe très très important. D'ailleurs, Mamphela Raphael, qui est une universitaire sud-africaine reconnue, elle a exercé d'importantes responsabilités à la Banque mondiale, avait déclaré que ce groupe était une bombe à retardement. Et c'est vrai que les membres de ce groupe exigent des politiques sans cesse plus populistes. Ce n'est pas qu'ils y croient fermement ou qu'elles correspondent à leur idéologie, mais parce que ces gens disent « moi je n'adhère plus à vos politiques économiques parce qu'elles ne me permettent pas de survivre ».
L'impact de la récession sur les secteurs clés of our economy, such as manufacturing.
Le président Jacob Zuma a été confortablement élu en avril dernier grâce aux voix des pauvres et des travailleurs. Malgré la crise, il s'est engagé à tenir ses promesses envers les plus défavorisés. Son gouvernement a annoncé des programmes de formation en faveur des ouvriers licenciés. Il a par ailleurs décidé d'emprunter pour financer sa politique de grands travaux. Dans le même temps, l'administration de Jacob Zuma a réprimé sans retenue les débordements survenus au cours de rassemblements. Gwede Mantashe, secrétaire général du parti au pouvoir, l'ANC, c'est aussi un proche conseiller du président.
People are stressed out in South Africa and everywhere else in the world.
Les gens en Afrique du Sud sont tendus comme dans le reste du monde. Pour ce qui est des manifestations en Afrique du Sud, nous pensons qu'il faut respecter les droits de nos citoyens. Donc ils doivent avoir le droit de protester. Mais nous disons attention, ces droits font aussi appel à des responsabilités. Nous ne tolérerons pas que les gens estiment que le droit de manifester est un permis pour tout détruire sur leur passage. Nous sommes à l'écoute du peuple. Nous n'éludons pas les problèmes. D'ailleurs, nous avons adopté des mesures pour contrer ces cycles de croissance négative. Au lieu d'attendre la sortie de crise, nous avons choisi de prendre les devants. Nous pensons que si nous augmentons les dépenses d'investissement du gouvernement, nous allons stimuler de nouvelles activités économiques et par là même stimuler la consommation. Le président a dit que ces politiques devraient permettre de créer 500 000 emplois d'ici décembre. Cette estimation repose sur les informations que nous ont transmises les différents départements ministériels et je pense que nous allons atteindre cet objectif d'un demi-million d'emplois.
Well, let me tell you, Peter with a half a chance there, unfortunately.
L'Afrique du Sud accueille la Coupe du Monde de football l'an prochain. Elle bâtit donc des stades, agrandit ses aéroports, améliore son réseau routier. Cette compétition est une aubaine en période de récession, selon Raymond Parsons, vice-président de l'organisation patronale Business Unity South Africa.
You may recall that we were supposed to get
Vous vous souvenez peut-être que l'Afrique du Sud était candidate pour organiser la Coupe du Monde de football de 2006. Nous avions perdu, il nous manquait une voix seulement. Mais aujourd'hui, on devrait se mettre à genoux et remercier la FIFA pour cette voix fatale, parce qu'organiser la Coupe du Monde pour l'an prochain, en 2010, c'est beaucoup mieux. Nous avons d'ores et déjà lancé d'importants travaux d'infrastructure, et le fait que nous ayons une date butoir l'an prochain oblige les décideurs à se focaliser sur ces travaux et à les financer. Et puis on s'attend à voir débarquer un demi-million de visiteurs ici en Afrique du Sud dans 9 mois. Donc tout cela, c'est vraiment un bonus. Quand la crise a éclaté, nous avions déjà débloqué d'importantes sommes pour financer ces travaux. D'autres pays en ont parlé, mais après la crise seulement. Et là, ils mettent du temps à franchir le pas. Tandis que nous, nous avons sorti nos pelleteuses il y a longtemps déjà. On commence à en récolter les fruits d'ailleurs. Le secteur du bâtiment ici affiche de très bons résultats.
L'Afrique du Sud a sur les bras une crise venue d'ailleurs. Selon le numéro 3 de l'ANC, Guido Mantashe, la crise mondiale donne des arguments supplémentaires à tous les pays qui souhaitent avoir davantage voix au chapitre des grandes décisions qui gouvernent le monde.
L'Afrique du Sud est l'un des pays qui milite le plus pour attirer l'attention sur le besoin de transformer et de restructurer toutes les institutions multilatérales, qu'il s'agisse du Conseil de sécurité des Nations Unies, du Fonds monétaire international et de la Banque mondiale. Ces institutions ne peuvent pas nous reléguer au rôle de simples fournisseurs de matières premières. Nos pays doivent participer, ils doivent avoir une voix. Par ailleurs, cette crise nous a aussi alertés sur la nécessité d'accroître le volume des échanges commerciaux entre pays émergeants. Les relations sud-sud sont très importantes. Cela ne veut pas dire que nous devons nous écarter des pays développés. Mais si on ne fait rien, on sera toujours là à subir les conséquences, crise après crise. Des crises d'ailleurs qui ne sont pas de notre fait. Nous avons intégré un système économique mondial et cela implique que si une crise survient dans un pays développé, cette crise risque de nous affecter. Cela, nous l'acceptons tout à fait. Mais nous devons malgré tout développer des politiques pour nous permettre de mieux affronter ce type de situation.
Les pays occidentaux, avec la crise, ont quelque peu perdu leur statut d'Eldorado. Et c'est l'une des rares bonnes nouvelles dans ce climat morose. Des Sud-Africains diplômés commencent à rentrer au pays. Ronald Hennick est le patron de la société immobilière PAM Golding dans la région de Johannesburg-Pretoria.
Nous avons recensé des groupes qui revenaient de Londres, mais nous avons eu des retours plus massifs d'Australie et d'autres pays encore. On a relevé aussi un changement d'attitude face au départ, parce que finalement, cette crise a entraîné deux conséquences. D'une part, nous avons eu davantage de gens qui sont revenus et nous leur avons vendu pas mal de maisons. D'autre part, on n'entend plus parler des gens qui quittent le pays. Parce que vous savez, dans l'immobilier, ça nous intéresse toujours de savoir pourquoi quelqu'un décide de mettre en vente sa maison. Durant des années, les gens nous disaient qu'ils vendaient pour s'installer à l'étranger. Mais on a l'impression que ces gens se sont évaporés. Il faut croire que les options, les opportunités qui se présentent à l'étranger sont désormais moins attractives que les opportunités ici, en Afrique du Sud.
Malgré ce timide retour des cerveaux, la reprise ne sera pas robuste de l'aveu du gouvernement sud-africain et elle ne se manifestera pas avant 2010 dans la locomotive du continent. Grand reportage Nicolas Champeau, réalisation Alain Bleu.
Et on retrouve Nicolas Champeau en ligne de Johannesburg. Bonjour Nicolas.
Bonjour Nathalie.
Alors la voix que l'on vient d'entendre à l'instant, c'est celle de Jacob Zuma, le président sud-africain. Qu'est-ce qu'il chante au juste ?
Alors, Nomagubi Siyaya, cela veut dire même dans l'adversité, nous ne nous reculerons pas. C'est un chant de lutte que Jacob Zuma interprète systématiquement à l'issue de ses discours lors de réunions publiques. Alors, je ne pense pas qu'il chantera lors du G20 à Pittsburgh, mais il a interprété Siyaya lundi devant les syndicalistes de la Confédération Kossatu qui étaient en congrès donc à Johannesburg. Alors, Siyaya, je vous l'ai dit, c'était un chant de lutte contre l'apartheid, mais les paroles peut-être se prêtent aussi à l'attitude que doivent adopter Jacob Zuma et les Sud-Africains face à la crise aujourd'hui.
Oui, Zuma élu en avril, on va le rappeler, il n'est au pouvoir que depuis quelques mois. Il a déjà connu en juillet dernier des émeutes et des grèves. Il sait, Nicolas, que le grand défi de son mandat, c'est la pauvreté en Afrique du Sud.
Oui, c'est la pauvreté. Zuma a déjà été bousculé dès le début de son mandat, vous l'avez dit. Et face au débordement, il a choisi la fermeté et la réactivité. Son prédécesseur, Thabo Mbeki, vous vous souvenez peut-être, avait attendu 15 jours avant de condamner solennellement les émeutes xénophobes de mai 2008, alors que Zuma...
Ah, il y a quelques petites ruptures sur la ligne, mais continuez, c'est bon,
vous la retrouvez. Alors, Zuma, en juillet, avait immédiatement fait part de sa consternation suite aux émeutes dans une demi-douzaine de bidonvilles du pays. Mais c'est vrai qu'il est attendu au tournant, car il a promis qu'il serait le président des pauvres, et les classes défavorisées réclament un changement palpable, surtout ceux qui vivent dans des taudis. Ils sont encore 1 million à attendre des logements en dur subventionnés. Par conséquent, Zuma et l'ANC risquent d'être sanctionnés lors des prochaines élections s'ils ne tiennent pas leurs promesses. Mais avant cela, le pays n'est pas à l'abri d'émeutes. Donc Zuma doit faire preuve d'une très grande vigilance. Alors il a tout de même des atouts en main, car il hérite d'une situation financière assez saine, avec peu de dettes. Donc il peut recourir à l'emprunt pour financer de grands travaux et des logements sociaux.
On l'a dit, Nicolas, l'Afrique du Sud est entrée en récession du fait de la crise internationale, mais elle a aussi son propre calendrier social. On ne peut pas tout mettre sur le dos de la crise.
Non, parce que l'Afrique du Sud, au mois de juillet, est rentrée dans une saison de négociation de salaires, secteur par secteur. Donc on assiste à un bras de fer entre les salariés et les employeurs, qu'ils soient publics ou privés. Et la grève est bien sûr une arme dans ce rapport de force. Donc on peut raisonnablement, effectivement, penser que même si l'Afrique du Sud n'était pas rentrée en récession, les salariés seraient descendus dans la rue. Et puis aussi, l'opérateur national d'électricité, Eskom, était en grande difficulté bien avant la crise. Et Eskom, il y a quelques semaines, a augmenté les tarifs d'électricité de plus de 30%. Et ils sont nombreux ici à penser que la facture est un petit peu trop salée.
Merci Nicolas Champeau. Et ce grand reportage en Afrique du Sud est à retrouver à tout instant sur le www.rfi.fr. Lundi, grand reportage sera au Kosovo avec Béatrice Leveillé.